Avec le podcast de Traverser la frontière, prenez votre dose d'inspiration et d'évasion avec les incroyables histoires de Français qui ont décidé de quitter la France pour vivre à l'étranger. Si vous avez envie de voyager, changer de vie ou simplement d'ouvrir votre horizon, découvrez chaque semaine les parcours variés et les précieux conseils de nos invités pour enfin passer à l'action. Je vous laisse maintenant avec Mickaël pour ce nouvel épisode.
Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 2 du podcast de Traverser la frontière. Je vous remercie d'être présent aujourd'hui et d'écouter cette nouvelle interview en espérant que vous allez apprendre pas mal de choses sur le voyage aujourd'hui. Alors nous accueillons Jérémy Barry pour ce nouvel épisode. Certains le connaissent déjà car Jérémy a effectué un tour du monde en stop pendant 5 ans et demi et il a écrit un livre qui s'appelle « Mon tour du monde en 1980 jours ». Du coup, il est assez connu dans le monde des voyageurs et surtout, on est assez admiratif devant cet exploit qu'il a effectué. Personnellement, j'adore son parcours et je suis assez heureux de pouvoir vous offrir un moment privilégié avec lui. Durant cette demi-heure, on va parler évidemment de son tour du monde, mais aussi de sa nouvelle expatriation à Dublin, là où il vit actuellement, de sa vision du monde qui a bien sûr changé au cours de son voyage et plein d'autres choses. Si vous souhaitez retrouver les liens et les ressources que l'on va évoquer dans cette interview, il suffit d'aller sur l'URL traverserlafrontière.com/002. Tout se trouve sur cette page. Allez, c'est parti pour l'interview avec Jérémy.
Oui, bonjour Jérémy.
Bonjour Mickaël.
Ça va ?
Ça va, très bien.
Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, me dire un petit peu où ce que tu en es, ce que tu as fait ces dernières années ?
Donc, je m'appelle Jérémy Marie, on va dire que j'ai fait un tour du monde en autostop de l'âge de 23 ans jusqu'à 28 ans, 29 ans en fait, pendant 5 ans et demi.
Ouais.
Aujourd'hui, je suis résident à Dublin, en Irlande, donc je suis un expatrié français en Irlande. Pierre, c'est une première introduction.
D'accord. Ouais, donc je pense que la plupart des gens dans le monde du voyage te connaissent grâce à ton tour du monde, parce que tu as lancé un site et tu as écrit surtout un livre en septembre 2013, justement, sur ton voyage. Et la première question que je pourrais te poser, c'est pourquoi, en gros, tu t'es décidé à faire un tour du monde en stop pendant toutes ces années ? Qu'est-ce qui t'a motivé, en fait ?
Je pense qu'en fait, le désir de voyager, c'est un peu propre à beaucoup de jeunes, surtout des personnes qui ont touché un petit peu au voyage quand ils étaient jeunes, ou même moins âgés, en fait. D'un côté, ça arrive par hasard d'avoir envie de voyager, c'est en voyageant, par hasard, on va dire. L'autostop, c'est aussi arrivé par hasard, quand je vivais au Pays de Galles. Ce qu'il y a, c'est que ça m'a permis de voir que l'autostop est une bonne manière de rencontrer l'autre et d'avoir des discussions et de comprendre la culture du pays où on va voyager en fait. Et donc, en ayant découvert cette méthode de voyage, ça m'a donné envie d'en savoir plus sur l'Europe et sur le reste du monde. Donc à la suite de ça, j'ai fait un tour d'Europe en stop.
D'accord.
Puis donc le tour du monde. Donc c'est une envie de découvrir, c'est une envie d'assouvir des rêves aussi. C'est une envie de comprendre le monde, de comprendre où on vit. C'est aussi d'essayer d'apporter une réponse à cette question que beaucoup de gens se posent, c'est quel est le sens de la vie également, quoi. Et de vivre la vie, je pensais que le voyage est un bon début de réponse à ça. Ça permet de ressentir la vie.
D'accord. Ok. Et quand tu as décidé justement de commencer un petit peu à faire d'autostop en Europe et après ton tour du monde, c'était quoi la réaction un petit peu de ton entourage, de tes amis, de ta famille? Est-ce qu'ils comprenaient ce choix, ce type de voyage ou comment ça s'est passé?
Je pense que pas toute la famille comprenait, même une petite minorité vraiment comprenait la signification de pourquoi faire le tour du monde. Mais ils l'ont accepté, donc ils ont accepté le fait que j'avais pris une décision, que j'allais certainement au moins me lancer dans cette direction-là, quoi. Donc ils m'ont laissé faire. Mon père, par exemple, m'a même dit qu'il me comprenait, donc c'était presque une façon de m'encourager. Et donc d'avoir le support au moins moral des parents, de la famille la plus proche, pour moi était quand même important. La condition était de devoir garder contact et de donner des nouvelles, ce qui pour moi était le minimum et ce qui était assez facile aujourd'hui puisqu'on a Internet. Donc c'était positif de ce côté-là, je veux dire.
D'accord, ok. Avant de partir, parce que la question du financement des voyages, donc qui revient assez souvent, les gens se demandent un petit peu comment on peut faire pour aller voyager, comment on a l'argent pour le faire. Donc avant de partir, comment s'est passé? T'avais épargné avant ou tu as travaillé pendant que tu voyageais?
Non, j'ai tout économisé avant. Enfin, j'étais parti avec un budget de 9 000 euros que j'avais économisé en travaillant dans un restaurant pendant 1 an en France.
D'accord.
J'avais aussi obtenu une petite bourse. C'était une bourse étudiante. Je crois que c'était délivré par le département du Calvados. Je crois que c'était comme la bourse d'EFI Jeunes qui existait à l'époque. Euh,
D'accord.
c'était une bourse similaire. C'était pas celle-là. Et pour le reste, non, tout le budget provenait de mon travail, on va dire. J'ai économisé ces 9 000 euros qui m'ont duré pendant 4 ans. Et pendant 4 ans, ça m'a permis d'atteindre l'Australie où j'ai économisé un petit peu plus pour traverser le continent asiatique. Donc j'ai bossé sous un visa vacances-travail en Australie. Et l'économie était tellement bonne que pendant 3 mois, encore une fois, en tant que serveur en restaurant, j'ai économisé 5 000 euros. Donc
D'accord.
j'ai gagné 5 000, j'ai économisé, donc j'ai gagné plus que ça. Donc oui, t'as des pays où c'était intéressant de s'arrêter pour travailler et d'autres pays où c'est plus intéressant pour dépenser son argent, on va dire.
Ouais. D'accord. Donc en gros, tu es parti avec plus ou moins 10 000 euros et t'as, au bout de 4, qui t'ont fait 4 ans et ensuite 5 000 euros en Australie durant 3 mois. Donc en gros, ton voyage de 5 ans et demi, c'est à peu près, t'as coûté 15 000 euros.
Voilà, 14 000. Ouais, c'est à peu près le budget, ouais.
D'accord, donc ce qui nous fait un peu une moyenne. Bon, là j'ai fait à peu près un peu moins de 3 000 euros par an, quoi, c'est ça.
Voilà, ouais.
D'accord. Donc je pense que ce budget qui est très bas, parce que 3 000 euros par an, c'est vraiment pas grand-chose, c'est dû au fait évidemment que tu ne payais pas ton transport, vu que tu faisais du stop. Et après, tout ce qui concernait le logement, la nourriture, etc., comment ça se déroulait?
C'est vrai que le budget, c'était surtout pour la nourriture,
Ouais.
pour les visas, et pour le logement, mais le logement pas tant que ça non plus, parce que le but aussi était, étant de rencontrer les locaux, je me retrouvais souvent à dormir chez l'habitant, donc ça restreignait le budget encore une fois. Après oui. Les plus gros coûts, c'était ça, quoi. Après, il y avait aussi l'assurance que j'ai pris pendant 2 ans, hein, qui couvrait presque 10% du budget au final.
Ouais.
Et ouais, c'est. Ouais. Mais au final, ouais, on peut vivre en vivant comme les locaux dans la plupart des pays, avec un budget très, très limité, on va dire, pour un Européen. Alors qu'au final, je mangeais très bien, je mangeais même mieux dans les pays comme le Mexique ou la Thaïlande. Où la culture des restaurants de rue, des échoppes qui proposent de la nourriture dans la rue, c'est très populaire et donc c'est très bon marché pour un Européen, encore une fois.
Ouais. Donc tu dormais chez l'habitant. Est-ce que tu utilisais des sites comme Couchsurfing ou des sites comme ça pour dormir chez l'habitant ou c'était juste des rencontres?
Non, j'ai beaucoup utilisé Couchsurfing.
D'accord.
C'est vrai, je trouve que c'est un site internet qui est vraiment riche en interactions, quoi. Ça propose une base de données des personnes qui sont intéressées à rencontrer l'autre à la base. Donc, pour quelqu'un qui recherchait ça, comme je l'étais pendant ce voyage-là, c'était vraiment le site ultime, on va dire. Après, je dormais chez l'habitant, ça se crée aussi assez naturellement par le fait que je voyageais en autostop. Donc déjà, ça proposait des rencontres et éventuellement ces personnes-là aussi proposaient l'hébergement dans le cadre de mon voyage. Ouais. Donc ouais, le couchsurfing, il y avait ça aussi. Et bon, aussi, des fois, ça m'arrivait de dormir dehors quand il n'y avait pas vraiment d'autres solutions. Et si
Ouais.
je devais vraiment dormir à l'hôtel, je cherchais toujours l'hôtel le plus économique, le moins cher. Encore une fois, on peut trouver à 3-4 euros dans la plupart des pays.
Ouais.
Au final, oui. C'était
Et
à peu.
ce serait,
Hmm?
pardon. Et ce serait quoi du coup l'endroit où tu as dormi, dans lequel tu as passé ta plus mauvaise nuit, ça ressemblait à quoi?
Je pense que c'est difficile à dire au niveau, par exemple, du confort, parce que le manque de confort ne me dérangeait plus du tout vers la fin. Et en fait, ce qui était beaucoup plus dangereux pour moi, c'était l'humain, en fait. Parce que tu peux pas vraiment te protéger de ça quand tu dors. Alors que le climat, tu peux faire attention, tu peux rajouter des couvertures, mais l'humain qui a pour intention de venir te détrousser, c'est plutôt imprévisible, quoi. Les pires nuits, c'est peut-être quand je l'ai passé dans la ville, en fait, genre à Managua, au Nicaragua, où je m'étais fait voler mon téléphone par le gardien de parking. Par exemple, c'était les mauvaises nuits.
D'accord.
Ouais.
Ah, c'est des choses qui arrivent. Tu sais, même à Paris, on peut se faire voler. Enfin, je te dis ça parce qu'il y a le week-end dernier, je me suis fait voler mon téléphone à Paris. Donc,
Ah
tu
bah.
sais, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour que ça arrive.
Ouais, c'est clair, mais je trouve que l'Europe non plus, les grandes villes européennes ne sont pas sûres du tout, hein. Même Dublin ici, qui est pourtant une plus petite ville, quoi. Mais il y a plus de, ouais, la criminalité voyante aussi, les interactions sont assez rudes aussi. Je trouve que le contact n'est pas souvent naturel ou n'est pas le bienvenu, quoi. Je sais pas. Ça me permet. Je trouve que c'est assez dur aussi de vivre en Europe. Alors que beaucoup de personnes pensent que c'est le Dorado,
Ouais.
on est un peu loin de ça, je pense.
D'accord. Donc là, tu m'as raconté une petite anecdote, on va dire, qui était pas très agréable, mais du coup, durant ces 5 ans et demi, je suppose qu'il y a beaucoup de choses positives qui sont arrivées. Comment tu définirais un peu la meilleure expérience que tu as vécue durant ce tour du monde?
Ah, c'est aussi tellement difficile de faire un classement, en fait, des expériences, les meilleures expériences, parce que le voyage en lui-même était vraiment une expérience unique et forte. C'est la somme de toutes les émotions vécues, de toutes les rencontres que j'ai eu la chance de faire, quoi. Après, quelque chose qui a affecté le plus mon futur aujourd'hui, c'est peut-être ma rencontre avec, on va dire, ma future femme, que je vais donc épouser dans 2 mois,
D'accord.
en Indonésie. Parce que ça permet aussi de continuer la vie en utilisant quelque chose qui venait de ce voyage aussi, je pense, quoi.
Ouais, donc tu as rencontré ta copine, donc future femme, quand tu étais en Indonésie.
Ouais. Quand je suis passé à
D'accord.
Bali, en fait, c'était d'ailleurs la première personne que j'ai rencontrée sur le continent asiatique. Donc ouais, c'était à Bali quand je passais à Bali. J'étais supposé rester 3-4 jours à Denpasar, enfin à Canggu, c'est une petite plage à l'ouest.
Ouais.
Je suis resté 1 mois, puis donc, à la suite de ça, on est resté en contact. Donc elle est venue me visiter au Cambodge, puis ensuite en Chine. Et à la fin du voyage, je suis retourné donc vivre à Bali. Donc c'était aussi pas anodin pourquoi je suis revenu sur l'île des dieux. Et donc ouais, puis après on a monté enfin notre projet était de venir essayer de vivre dans un pays qui parlait anglais anglophone. Donc on est allé en Irlande ensemble. Ouais.
D'accord. Ok, bon, bah, c'est une belle rencontre en tout cas.
Ouais.
Ok.
Ça a aussi affecté sur la fin du voyage. J'avais un sentiment de. En fait, il y avait un certain sentiment de superficialité dans les rencontres qui était toujours assez éphémère. Et c'est ça qui manque aussi. Il y a beaucoup de voyageurs, je pense, qui ressentent cette émotion-là. C'est que quand tu te déplaces chaque jour et que tu rencontres aussi des personnes, mais les rencontres sont peut-être intenses, mais elles sont éphémères. Et t'as une certaine envie de construire quelque chose d'une manière sociale ou même de construire des projets au long cours. Et c'est peut-être à ce moment-là du voyage, j'avais envie de trouver une femme aussi, éventuellement de fonder une famille par la suite. T'avais ça, t'avais, c'était, ça provenait soit du voyage, soit c'était trop long, ou soit aussi de la génétique. J'arrive presque à la, j'ai passé la trentaine maintenant, donc peut-être du
D'accord.
vieilli aussi, je sais pas.
D'accord. Justement, sur le vieillissement et peut-être l'expérience, donc ça fait 1 an que tu as terminé ce tour du monde. Avec le recul, tu arrives à savoir un petit peu ce que ce voyage de 5 ans t'a apporté. Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même ou sur le monde ou des choses comme ça?
Ouais, je pense que le fait que tu dises avec le recul, je pense que c'est vraiment important parce qu'à la fin du voyage, J'avais pas eu le temps de faire le bilan. On me demandait déjà quel était le bilan du voyage. Je m'étais encore plongé dans toutes ces émotions, et des retrouvailles. Et t'as vu le monde, mais t'as pas eu le temps d'essayer de le comprendre de sa manière globale. C'est très difficile de mettre des phrases sur ça. Et oui, ça prend des années en fait, de comprendre déjà la valeur de ce voyage-là. Parce que ça te procure des émotions qui sont difficiles à accéder dans une vie normale sédentaire, on va dire. Ça te procure des informations qui sont aussi très difficiles à obtenir dans les médias d'aujourd'hui. Combien de journalistes ont vraiment la possibilité, et même que ça soit logistique ou même la liberté de s'exprimer directement dans les médias d'aujourd'hui, pour que nous ayons la possibilité de comprendre le monde comment il est vraiment. Et donc de l'avoir vu, c'est presque une richesse qui est très rare en fait. Peu de personnes vraiment comprennent le monde comme il est. Et donc ouais, il m'a fallu plus, même ça fait même presque, ça fait 1 an et demi, presque 2 ans maintenant que je suis revenu, et je me rends compte que très peu de personnes ont vraiment une compréhension du monde global comme il est. Ils ont juste une opinion qui est fondée sur ce que les médias nous procurent et qui est souvent biaisée pour protéger les intérêts des pays dominants. Et donc, en fait, tu te rends compte quand tu commences à quitter l'Europe et à voyager dans le monde, c'est que la plupart des pays sont dominés. Et donc, évidemment, la vision du monde est un peu différente de ce que nous est présenté aujourd'hui.
Ouais, donc t'as appris un petit peu à voir les choses différemment que l'image qu'on en a si on restait en France et qu'on consumait des médias classiques qui nous donnent une vision assez différenciée de ce qu'est la réalité quoi, dans ces pays.
Ouais. Après, je sais pas pourquoi, enfin, la vraie raison de pourquoi les médias ne peuvent pas couvrir peuvent pas expliquer le monde. Peut-être que simplement, la demande, enfin, les personnes qui suivent les médias sont pas forcément intéressées à savoir comment le vrai monde fonctionne, ou parce que, tout simplement, c'est pas porteur au niveau. Parce que les gens sont habitués au sensationnel et qu'ils attendent surtout ça, ils attendent des conclusions directes à des problèmes qui peuvent durer des années. Ils ont pas, peut-être, ils sont impatients, ils sont pressés. C'est difficile à dire pourquoi, mais en fait, les choses sont beaucoup plus complexes qu'on veut bien nous les présenter.
Ouais, c'est sûr. Et du coup, ce tour du monde, t'en as fait quelque chose de beau parce que t'as écrit un livre dessus. Donc, qui s'appelle Mon tour du monde en 1980 jours, si je me trompe pas. Que tu as sorti en septembre 2013. Je voulais savoir si tu pouvais nous dire quelques mots dessus, donc pourquoi tu as écrit un livre et comment ça s'est passé un petit peu pour l'écrire et puis après pour le publier.
En fait, quand je suis revenu en France, c'était même 2 jours avant la fin du voyage. En fait, j'étais contacté par maison d'édition en fait pour publier un livre sur ce voyage-là. Donc, ils profitaient aussi du fait que c'était un peu médiatisé sur le retour pour ça. En fait, il y avait le côté commercial qui les intéressait surtout. L'avantage de mon côté, c'est que j'avais déjà des carnets de bord qui étaient déjà écrits pendant ces 5 années-là. Donc, j'avais vraiment le matériel pour faire quelque chose. Et pour moi, c'est aussi important de partager aussi toutes ces visions que j'avais eues, toutes ces informations que j'avais collectées, avec justement les personnes qui n'ont pas forcément l'opportunité d'avoir accès à ces informations-là. Et d'une façon personnelle, ça me permettait aussi de tourner la première page du bilan pour justement comprendre ce que le tour du monde m'avait apporté. En écrivant et en faisant le point, ça permettait aussi de passer à quelque chose d'autre dans ma vie. Parce que c'est très difficile aussi de retourner à une vie normale, ou enfin, on va dire sédentaire, après avoir fait un long voyage de 5 ans et demi. Donc le fait de me poser et d'écrire, ça me permettait ouais, de commencer la transition. Donc, c'était aussi à ce point de vue-là nécessaire pour moi.
D'accord.
Ouais.
Ok. Et t'as des, je sais pas si tu peux le dévoiler, mais t'as des chiffres justement de vente sur ton livre, à quel niveau ça a marché, combien de livres tu as vendu, etc. Ou...
Bah, la première impression du livre, c'était 6 000 exemplaires.
D'accord.
Et donc, en fait, les chiffres sont dévoilés par une fois l'année, parce que le temps que la La maison d'édition fait les décomptes. Et donc, elle a été publiée en septembre, donc j'ai les chiffres de septembre à décembre, en fait. J'avais vendu 4 500 exemplaires du livre.
D'accord.
Donc, pour 2014, je sais pas
D'accord,
rien, mais
ok.
je pense que ce sera beaucoup moins aussi. C'est pour l'instant les premiers chiffres.
D'accord, ok. Donc c'est pas mal déjà d'avoir autant de personnes qui ont lu ton histoire
Ouais.
après Valbera.
Ouais, je pense aussi, bon, il y a tellement de compétition aussi dans l'édition, mais le fait aussi d'avoir rencontré beaucoup de personnes, je pense que beaucoup de personnes qui ont acheté le livre connaissaient déjà l'histoire par ou avaient suivi pendant les années du voyage, vraiment sur Internet aussi, où je communiquais assez sur mon site Internet, et des personnes que j'ai rencontrées même physiquement dans la vraie vie ou même sur la route. C'est vrai que la longueur du voyage permettait aussi d'englober beaucoup plus de personnes dedans. Ouais.
D'ailleurs, oui, voilà, t'as un site internet, du coup, je pense que ça joue un petit peu sur ta reconnaissance et l'autorité que tu as eue. Donc, c'est tourdumondeautostop.fr, c'est ça. Du coup, tu as créé ce site-là durant ton voyage et je veux savoir un petit peu comment ça s'était passé pour le mettre à jour, ajouter du contenu, dialoguer avec les gens qui t'écrivaient, etc. Donc, durant ton voyage, comment tu maintenais, on va dire, ton site web?
En fait, au point de vue technique, j'avais un petit netbook avec moi, ce qui me permettait d'écrire les articles, de stocker les photos, et de garder tout le matériel qui allait être plus tard posté sur le site internet. Après la création, c'est un ami à moi qui m'a offert le on va dire l'archi comment dire le site internet, on va dire vide quoi, l'architecture du site quoi,
D'accord.
en cadeau pour le début du voyage, donc j'ai beaucoup apprécié ça. Moi c'était aussi important d'avoir une espèce de vitrine du voyage, parce que j'allais le faire en stop et parce que je sais qu'à certains moments il était important pour moi d'avoir un objet de communication pour obtenir certains livres, par exemple en cargo stop ou en avion stop. Quand tu veux traverser les océans, ça devient beaucoup plus compliqué. Et même pour faciliter mon projet à certains niveaux, par exemple, quand tu as des problèmes enfin, pour médiatiser, par exemple, tu as un site internet, ça permet d'obtenir un article de journal, par exemple. Avec l'article de journal, tu peux passer des points de contrôle de police qui veulent pas te laisser continuer, ou tu peux négocier un passage gratuit avec eux, si tu as du matériel à montrer. Donc, ça permettait aussi d'utiliser ça à ce point de vue-là. Et le deuxième truc, c'était pour communiquer sur le voyage, encore une fois, pour participer au partage d'informations. Je trouvais que ça, c'était important. J'avais une chance de pouvoir voir ces choses-là. Et je pensais que, comme beaucoup de voyageurs d'ailleurs, c'était bon pour les autres d'avoir accès à ça.
D'accord.
C'est pas des informations qui sont toujours faciles à accéder, donc d'en faire participer, enfin de partager au plus de monde. Ouais.
Ouais. Non mais je comprends et je pense que ça a dû effectivement t'aider durant ces 5 années d'avoir ce site. Donc du coup, t'es revenu de ton voyage et ensuite tu as décidé de ne pas rester en France en fait. Là tu es reparti, tu t'es expatrié à Dublin en Irlande, c'est bien ça?
Oui. Bah,
D'accord.
le projet avec Wati, hein, qui m'accompagne, indonésienne, c'était de vivre à la fin du voyage dans un pays anglophone, pour qu'elle ait une expérience de vie à l'étranger également. D'ailleurs, ça me permet d'expliquer un petit peu un point que je pense est important pour les Français au moins, c'est que avoir un passeport français, c'est une véritable chance aujourd'hui. Ça permet de vivre, de voyager, mais aussi de vivre un peu n'importe où sur cette planète. Alors que quand tu as un passeport indonésien, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Même un passeport de la plupart des autres pays du monde. Tu peux pas vivre n'importe où. Il faut que. Enfin, ça devient même tout simplement inaccessible parce qu'on demande de prouver que tu as des possessions, que ce soit matériel ou même avoir un compte en banque bien chargé, alors que c'est impossible de le remplir avec la monnaie locale du pays. Donc, le but c'était ça, ouais, de vivre un peu à l'étranger dans un pays anglophone. Donc, on a choisi l'Irlande parce que c'était le pays qui, au moment où on a cherché, où c'était le plus facile justement au niveau administratif, et aussi un
D'accord.
pays que je connaissais déjà, donc c'est un peu en faisant une comparaison des pays anglophones qui m'attiraient un peu plus que les autres.
Mais ça, tu fais bien de souligner qu'on a une chance, et probablement les personnes qui voyagent pas forcément ou ne se rendent pas compte d'avoir un passeport français européen. C'est vrai qu'on peut voyager partout dans le monde sans de difficultés, on va dire, importantes. On peut travailler partout en Europe et dans beaucoup de pays du monde. Et ça, c'est clair. Moi, j'ai vécu un petit peu aux Philippines et donc j'ai rencontré des Philippins et des Philippines qui voulaient venir juste voyager à l'étranger ils voulaient venir en France pendant un mois ou en Europe. Et rien que le fait de venir voyager pour un ou deux mois, c'était très, très, très compliqué de venir parce qu'il fallait prouver qu'il y avait beaucoup d'argent, qu'on connaissait des gens, il fallait donner ton itinéraire précis avec tes vols, etc. Et même avec ça, beaucoup, beaucoup d'amis se faisaient refuser l'accès au territoire européen. Donc c'est un point que tu soulignes et je pense qu'il faut qu'on se rende compte de la chance qu'on a d'avoir un passeport français, ça c'est clair. Ok. Et donc Dublin, tu t'es allé t'expatrier à Dublin et comment ça se passe du coup? T'as trouvé un boulot? Comment ça s'est passé au début?
Donc je suis arrivé, bon, j'avais pas de travail, j'avais pas de logement, donc je suis resté avec des amis que je connaissais du lycée qui m'ont hébergé pendant un mois. Et pendant ce temps-là, donc j'ai trouvé un travail, mon premier boulot, c'était dans un restaurant, donc qui me permettait d'obtenir un premier salaire. Et pendant ce premier mois, j'ai aussi trouvé un autre travail à mi-temps, donc, dans une agence de voyage. Ce qui m'a permis d'obtenir ce boulot, c'est pas mes études ou mon diplôme, parce que j'ai pas non plus de diplôme dans le tourisme, bien que j'ai étudié un peu, j'ai pas terminé mes études.
D'accord.
C'était vraiment ce voyage-là, et le fait de l'avoir un petit peu, on va dire, présenté d'une manière un peu plus professionnelle, ça m'a permis aussi d'obtenir un travail, avec en plus certaines responsabilités, donc puisque je suis plus ou moins en charge de cette agence de voyage. C'est un peu les responsabilités qui m'ont été données aujourd'hui. Parce que pendant cette première année, je suis passé à plein temps, je me suis retrouvé plus ou moins tout seul à gérer le truc.
D'accord.
Donc, ouais, donc je pense que le voyage, ce voyage-là, ça m'a permis de légitimiser mon entrée dans le monde du travail. Après, je pense pas que ça me permet non plus de m'y épanouir. J'ai d'autres idées. J'ai aussi des envies. J'ai toujours ce désir d'essayer d'améliorer le monde, de contribuer d'une façon positive. Là, j'y contribue, mais je pense pas que ça fasse une grande différence. C'est juste un travail, en fait. Ça
D'accord.
me permet de me nourrir à la fin de la journée, de faire des économies pour faire quelque chose peut-être de plus productif à mes yeux.
D'accord. Ok, donc tu as trouvé ce boulot grâce en gros à ton blog et tes voyages. Donc déjà c'est pas mal. Enfin, c'est-à-dire que même si on fait des voyages, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien sur le CV. Donc c'est la valorisation du voyage déjà est importante. Donc c'est bien. Enfin, pour les gens qui comptent partir un an ou 2 ans et qui vont se dire ok, ça va faire un trou dans mon CV, que vont dire les recruteurs, etc. Ça a aussi des côtés positifs, donc il faut le noter.
Ouais, je pense qu'aussi ça dépend de la façon dont on présente les choses. Chaque chose peut être présentée de la meilleure manière. Et justement, ça, c'était le meilleur angle que j'avais trouvé. C'était justement de le mettre en valeur sur mon CV. De toute façon, je ne pouvais pas justifier un trou de 5 ans et
Ça paraît compliqué.
mais la chose amusante, c'est que j'ai plus ou moins trouvé ce boulot en démarchant. Les recruteurs de la même façon où je démarchais les potentiels conducteurs sur la route. Donc j'avais mon petit bouquin de voyage avec les articles de journaux, le livre que j'avais écrit également. Et donc je suis allé avec ces documents-là pour l'entretien d'embauche, et ce qui était largement suffisant.
D'accord, c'est marrant ça. Ok, donc voilà, tu te bosses dans une agence de voyage à Dublin. Ça ressemble à quoi la vie à Dublin vu que ça fait un an que tu y es comment tu te sens là-bas?
Bah, c'est une vie qui est assez rangée aussi. Donc, je trouve que je venais de Bali juste avant. Donc, il y a des choses qui sont mieux qu'à Bali, des choses qui sont moins bien. Donc, dans les choses mieux, c'est que matériellement, c'est plus riche. On a un appartement qui est peut-être mieux que ce qu'on avait. Par contre, c'est vrai que la vie est beaucoup plus chère, quoi. C'est plus organisé, je pense. Mais après, le côté négatif d'une vie en Irlande et surtout en Europe, je pense, peut-être au niveau social. Je trouve que après un an passé ici, j'ai pas vraiment créé d'amitié avec des locaux. Peut-être parce que je suis plus, peut-être que j'ai vieilli aussi, je sais pas.
Ouais.
Mais quand il est très difficile, je pense, de rentrer dans des cercles d'amis, je pense, qui se connaissent déjà depuis avant. Peut-être parce que je suis sorti de la vie étudiante aussi. Après, ouais, je pense que c'est peut-être typique des pays anglo-saxons. On n'invite pas trop les gens chez soi quand on ne les connaît pas depuis très longtemps non plus. Donc, ouais, niveau social, c'est un peu une déception. Moi, j'aime bien le contact facile, comme il y avait par exemple en Indonésie ou même entre locaux, où il est facile de voir que les interactions sont naturelles. Contrairement à ici, où c'est plus codifié, j'ai l'impression. En France aussi, hein, mais même si c'est plus facile en Irlande qu'en France aussi. Mais il manque ce côté naturel pour moi ici. Ouais.
D'accord. Ok, non, c'est marrant que tu dis ça parce que généralement, moi j'habite à Paris là actuellement et c'est vrai que j'ai souvent, bon, moi je vais à la rencontre des étrangers ou des étudiants qui viennent passer un an ou 6 mois ici et ils me disent tous la même chose, c'est quand ils arrivent à Paris, ils ont beaucoup beaucoup de mal à rencontrer des Parisiens entre guillemets ou des gens qui vivent, des locaux qui vivent à Paris et ils restent que entre étrangers, etc. Et on m'a toujours dit que c'était compliqué d'intégrer des cercles d'amis, etc. Je pense que c'est aussi le fait que ce soit dans les grandes villes comme ça, c'est ça rend les choses un peu plus compliquées aussi.
Ouais, je pense aussi, ouais.
Ok, et du coup, tes projets, parce que du coup, Dublin, ça te plaît, mais il y a des côtés qui te plaisent un petit peu moins. Tu vois comment le futur, est-ce que tu as des projets, des endroits où tu as envie d'aller vivre? Qu'est-ce qui va se passer pour toi?
Je prends aussi en considération du fait que bon, j'arrive dans une époque de ma vie où j'ai certainement commencé à avoir une famille aussi. Donc, l'expatriation dans notre pays, je pense que ça c'est très possible dans l'année qui va venir. Mais après, ça devra rester aussi dans un pays où je peux offrir mon travail par une spécialisation que j'ai acquis ici, c'est-à-dire dans le tourisme. Donc,
D'accord.
ça serait peut-être dans une première idée trouver un travail qui est lié à ça. Jusqu'au moment où j'aurai éventuellement la possibilité de commencer à travailler par moi-même ou à me développer sans entrepreneur. Mais encore une fois, il faudrait que je crée un projet qui s'accorde à mes valeurs et qui soit possible à appliquer à la vie réelle. Donc encore, il me faut l'idée, c'est surtout ça qui est le plus difficile. Mais après, au niveau de localisation, il y a de fortes chances qu'on retourne du côté du continent asiatique, parce qu'on aime bien le style de vie aussi. Et puis, je pense que pour ma compagne, ça serait très bien d'avoir une expérience en Europe. C'est très valorisé pour les Indonésiens d'avoir vécu 1 an ou 2 ans dans un pays anglophone en Europe. Pour le travail, ça double ou ça triple salaire, hein, tout simplement. C'est mieux qu'un diplôme, quoi. Donc ouais, pour ça, oui, c'est positif. Je pense que la vie nous plaira plus au niveau social aussi, parce que ça commence vraiment à devenir une limite importante dans notre esprit.
Ok, ça marche. On va arriver du coup à la fin de l'interview, mais j'avais une dernière question un peu à te poser. Ce serait, avec ta grande expérience du voyage, quel conseil ou enfin, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui viendrait te voir et qui dira, ouais, j'aimerais bien voyager, mais je sais pas trop comment m'y prendre, j'ai un peu peur, j'ai pas envie de partir à l'inconnu comme ça. Est-ce que tu as un conseil pour, va dire le pas l'inciter, mais lui faire comprendre que la richesse du voyage et qu'est-ce qu'il peut faire pour franchir le pas, quoi.
Ouais. Non, en fait, je reçois énormément de messages comme ça, et ça, je les comprends totalement parce que j'étais dans la même situation avant de partir. Et en fait, la réponse que je peux donner, c'est juste en expliquant comment je me sens aujourd'hui. Je me sens épanoui, et je me sens, ouais, en accord avec moi-même. Parce que le fait d'avoir réalisé son rêve et d'avoir vu tout ce que j'ai pu voir, ça permet d'être en cohérence avec soi-même et avec le monde autour de soi, puisqu'on comprend beaucoup mieux le monde dans lequel on vit. Après, c'est très important à franchir le pas au début, et c'est seulement ce passage-là qui est le plus difficile pour moi, c'est de couper les ponts avec son existence d'avant, c'est-à-dire de tout laisser derrière soi et de l'annoncer à sa famille. C'est simplement ça le plus difficile, parce qu'une fois qu'on est sur la route, tout change. Là, on se sent vraiment vivre l'expérience et c'est que du positif au final. Même s'il y a des événements qui sont un peu plus négatifs, ça fait partie de l'aventure et finalement, ça revient à côté du positif. Donc en fait, le plus difficile, c'est vraiment de couper les ponts, quoi. Et ça dure pas longtemps, hein. Ça prend 2 minutes à le dire à ses parents. Ouais, on y pense peut-être beaucoup plus qu'on finalement réalise, mais c'est vraiment important de le faire. Et c'est une expérience qui, de toute façon, c'est un peu un mythe de vie pour la vie de chacun de devoir réaliser une expérience comme ça. Ça restera, ça créera des histoires pour nos enfants plus tard. Mais ça aussi permet d'être une personne qui apportera quelque chose de positif pour l'environnement chacun, je pense. Quand tu comprends mieux le monde, quand tu comprends mieux comment les gens vivent dans les différents endroits, t'as pas envie, tu feras pas le mauvais choix quand le choix de ta vie future se posera. Tu penseras aux conséquences de tes actes et en général, tu feras le bon choix. Tu feras pas par ignorance de la chose. Ça, je pense que c'est important, quoi.
Non, clairement, je vais dans ton sens à ce niveau-là. Ok, bah merci Jérémy pour toutes ces infos et sur ton parcours. En espérant que ça inspire quelques personnes à aller faire un peu de stop, bon, peu importe si c'est en France ou à l'étranger. Et puis bah du coup bon courage pour, enfin félicitations déjà pour ton mariage qui va se passer bientôt et puis bon courage pour la suite et tous tes projets.
Et merci beaucoup, Mickaël.
À bientôt, salut Ara.
À bientôt.
Et voilà, l'interview avec Jérémy se termine. J'espère vraiment que ça vous a plu, que Jérémy vous a inspiré à passer à l'action, à partir en voyage, que ce soit en stop ou pas en stop, et aller découvrir un petit peu ce monde qui est si grand et si intéressant. Vous pouvez retrouver tous les liens et les ressources dont on a parlé durant l'interview sur l'URL traverserlafrontière.com/002. Et de plus, vous pouvez laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Bien, pas bien, est-ce que je pourrais améliorer des choses, etc. N'hésitez pas. Et en attendant, je vous retrouve pour un prochain épisode sur le podcast de Traverser la frontière. À bientôt.